Ce soir, nous venons à l'expérience clé de l'existence de l'unique nouvel homme. C'est une question de prendre Christ comme notre personne. Selon l'expérience, comment est-ce que le nouvel homme vit? C'est une chose de voir la vision du nouvel homme et que le nouvel homme a été créé à la croix, mais ce nouvel homme est toujours dans un état qui n'est pas mature. Ce nouvel homme doit croître pour produire ce nouvel homme, pour qu'il soit manifesté. Nous devons voir la manière dont il vit. L'expérience clé pour vivre ce nouvel homme, c'est de prendre Christ comme notre personne. Qu'est-ce que cela signifie, prendre Christ comme notre personne? Et comment est-ce que cela est différent de prendre Christ comme notre vie? Je suis certain que nous avons entendu parler de prendre Christ comme notre vie. Et même en Colossiens 3:4, la Bible nous dit que Christ est notre vie. Permettez-moi de dire cela. Afin de faire l'expérience de Christ comme notre vie, nous jouissons de lui. Nous prenons part à lui. À chaque fois que nous prenons part à Christ, nous sommes nourris de lui, approvisionnés de lui. Et nous faisons l'expérience de lui en tant que notre vie. Lorsque nous passons du temps le matin avec le Seigneur, nous invoquons son nom, nous prions, lisons sa parole. Nous sommes fortifiés, nous sommes rafraîchis, nous avons touché le Seigneur et il est la vie pour nous. Nous avons reçu l'approvisionnement de vie, on est fortifiés, nourris. Donc, je dirais que oui, vous avez fait l'expérience de Christ comme votre vie. Mais, qu'est-ce que cela signifie? Prendre Christ comme notre personne. Cela implique la personnalité. Les choses qu'il aime, les choses qu'il n'aime pas, il a sa propre volonté, son désir avec chaque être humain. À part le fait que nous avons la vie au-dedans de nous, nous sommes des êtres vivants. Nous avons aussi une volonté, une personnalité, un caractère. On aime manger certaines choses, on préfère ne pas manger d'autres choses. On aime aller à certains endroits. Cela est lié à notre personnalité. Pour les autres êtres vivants, ils ont aussi la vie. Mais ce n'est que les êtres humains qui ont la personnalité la plus forte. C'est le fait que nous sommes une personne, mais c'est ce qui frustre l'existence du nouvel homme. Pour le premier message, vous avez reçu l'approvisionnement de vie, vous étiez rafraîchi, mais lorsque vous sortez, vous conduisez, vous êtes en route, quelqu'un vous demande d'arrêter à un magasin, mais vous êtes pressé, vous n'avez pas envie, vous avez votre propre volonté. Et peut-être Le matin, vous avez joui du Seigneur, vous avez beaucoup aimé passer du temps avec lui. Et lorsque vous voyez votre femme, elle vous demande pourquoi cela vous a pris autant de temps. Et vous lui dites que j'étais en train d'avoir la vivification matinale avec le Seigneur. Alors, vous essayez de vous défendre. C'est vrai que vous jouissez du Seigneur avant, mais le moment que votre femme vous a posé cette question, vous avez exprimé votre propre personnalité. Et puis votre jouissance qui était si douce est devenue aigre. Mais tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Votre personnalité. Vous pouvez jouir de Christ en tant que vie, et pourtant votre personne n'a pas été touchée. Vous étiez rafraîchi, approvisionné, mais lorsque la situation se présente, votre personnalité sort. Vous voulez réagir, exprimer vos désirs, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donc, maintenant, par rapport à la vie, à l'existence du nouvel homme, nous devons prendre Christ comme notre personne. Lorsque votre femme vous demande pourquoi êtes-vous sorti si tard, ne répondez pas si vite. Attendez un instant. Invoquez le Seigneur, pas à haute voix. Si vous invoquez trop fort, votre femme vous demanderait pourquoi vous invoquez le nom du Seigneur. Vous essayez de me dire quelque chose? Mais invoquez le Seigneur de l'intérieur. Seigneur, qu'est-ce que je devrais dire? Seigneur Jésus, je viens de jouir de toi il y a 10 minutes. Maintenant, je dois faire face à une situation difficile. Je peux vivre par ma propre personne pour lui répondre. Ou je pourrais dire, Seigneur, désolé. Désolé de vous faire attendre. Vous prenez Christ comme votre personne. Seigneur, comment est-ce que tu voudrais être le mari à mon épouse qui n'est pas content à cet instant? Qui va être le mari? Vous? Qui produira une dispute? Ou le Seigneur? Seigneur, je te prends comme ma personne. Tu es ma vie, mais je dois te prendre comme ma personne maintenant. Comme vous voyez, il y a une différence entre jouir de Christ comme la vie et prendre Christ comme la personne. Cela arrive tout le temps dans notre vie quotidienne. Le livre dans la Bible, Cantique des Cantiques, nous donne un plan, une carte merveilleuse pour voir comment le chercheur grandit dans le Seigneur. J'aime bien ce livre. Mais n'essayez pas de comprendre toute seule. Vous pouvez lire 100 fois, mais vous ne pourrez pas le comprendre, sauf « Seigneur, donne-moi des baisers ». C'est un des livres les plus difficiles à lire. Il s'agit de la poésie. Mais dans son essence, ce livre parle d'une fille, une fille paysanne. Il y avait un roi qui est tombé amoureux de cette fille. Il y avait une différence dans leur statut social, mais ils sont tous les deux tombés amoureux. Cela décrit notre relation avec le Seigneur. Dans l'étape initiale, bien qu'elle appréciait son amoureux, lui, il l'a comparé à un cheval. Un cheval qui tirait les chariots du pharaon. Ça veut dire qu'elle est sauvage. Elle est forte. Elle est têtue. D'un côté, il a vu qu'elle l'aime, mais de l'autre côté, il a vu qu'elle est naturelle. Elle est têtue. Donc, il a continué de l'attirer, de passer du temps avec lui. Elle a fait l'expérience de la transformation. Petit à petit, elle est comparée à l'œil d'une colombe. Et ensuite à une fleur. Même une colombe. Une colombe n'est pas aussi forte qu'un cheval. Ensuite, elle est devenue une colonne de fumée, tout droit, entre le ciel et la terre. Il ne s'agit pas d'une colonne de pierre, mais de fumée. Ensuite, elle est devenue un lit, un lieu de repos. Ensuite, elle est devenue quelque chose qui peut emporter Salomon là où il veut aller. C'est très intéressant de voir l'exposition de ce livre. Le processus de sa croissance de vie dépendait de combien sa personnalité a été assujettie par son amoureux. Donc, elle a commencé par être un cheval, mais elle a été transformée. Au chapitre 4 et après, Salomon l'a vue comme son épouse, sa mariée. Elle était comparée à même une ville. Elle était appelée Sulamite, qui est la forme féminine de Salomon. Avant, elle était un cheval qui tirait le monde, qui tirait le pharaon. Mais finalement, elle a perdu sa propre personnalité. Elle est même devenue un jardin collectif, une ville. Madame Salomon, Sulamite. Elle est la forme féminine de Salomon. Elle est devenue un avec Salomon. D'après cette histoire, nous pouvons voir la progression de notre vie chrétienne. Toute notre vie chrétienne est dépeinte dans ces 8 chapitres. C'est merveilleux. Dans ce livre, nous pouvons voir comment un croyant grandit dans la vie. Et ce n'est qu'en laissant le Seigneur de soumettre notre personnalité. Le Seigneur veut toucher notre personne. C'est ce qui signifie être chrétien. Lorsque nous avons cru d'abord dans le Seigneur, le Seigneur a dit qu'il vient en nous. Une autre personne est venue en nous. Après notre croyance en lui, nous devons être baptisés pour témoigner à tout l'univers que notre vieille personne a été ensevelie. Nous sommes terminés. Toutes les autres religions nous disent d'enseigner les commandements, les enseignements. Cela n'a rien à voir avec la personne. Mohammed ou les autres chefs religieux . Le Seigneur a dit, lorsque vous croyez en moi, je viens en vous de manière positive. Mais nous devons aussi être baptisés pour témoigner que notre ancienne personne a été terminée. Paul a déclaré dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la vraie vie chrétienne. Qu'est-ce que la vraie vie chrétienne? Ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Dans le dessein éternel de Dieu, il ne veut pas que nous vivons selon notre vie naturelle, notre ancienne vie. Il nous a créés selon sa ressemblance. Mais il ne veut pas qu'on vit selon cette vie naturelle. C'est pourquoi, après avoir créé l'homme, dans Genèse, il a amené à l'arbre de vie pour que l'homme reçoive l'arbre de vie, qui signifie la vie divine, et qu'il vit par une autre vie. Cette vie, c'est la personne de Jésus-Christ. Aux yeux de Dieu, la vie ne peut jamais être séparée de la personne. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Si nous désirons recevoir la vie de Dieu, nous devons recevoir la personne. Dans l'économie de Dieu, lorsque nous avons reçu cette personne, nous recevons une personne en nous et nous déclarons que la vieille personne a été terminée. Il y a maintenant une nouvelle personne qui vit en nous. C'est l'économie de Dieu, c'est la vie chrétienne. Maintenant, nous venons au sujet du désir de Dieu pour gagner le nouvel homme, comme nous l'avons vu dans le message avant. Christ veut être tout et en tous dans ce nouvel homme. Qu'est-ce qui fait que le nouvel homme est le nouvel homme? Ce n'est pas juste qu'il y a plein de races, de nationalités, ça c'est juste une affaire extérieure. Mais le nouvel homme, c'est vraiment que nous avons une seule personne. Christ est la seule personne. Toutes les personnes naturelles doivent disparaître. Ils sont terminés. Et maintenant, une autre personne habite en nous. Vous voyez, c'est très important. Comment pouvons-nous faire l'expérience de Christ comme notre personne? Chiffre Romains 1. Pour le nouvel homme, nous devons tous prendre Christ en tant que notre personne. Éphésiens 3, 17. Ah. Nous citons ce verset souvent. Paul a prié dans Éphésiens. Il a prié « Père, qu'il soit fortifié avec puissance par ton esprit dans l'homme intérieur. » Paul avait deux prières. Dans Éphésiens 1, il a prié au Père de gloire qu'il illuminera les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle est l'espérance de notre appel et l'héritage de Dieu dans les saints et de connaître la puissance qui opère en Christ afin de le ressusciter aux cieux et d'avoir toutes choses soumises sous ses pieds, qu'il soit la tête sur toutes choses. Il a prié que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Notre esprit est nécessaire pour voir le dessein de Dieu dans l'Église, pour entrer dans l'Église. Les yeux de notre cœur sont illuminés pour voir ces choses. Mais ensuite, dans le chapitre 3, Paul a prié la deuxième prière, non pas pour la révélation, mais pour l'expérience. Et dans cette prière, il a demandé au Père de nous accorder d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Cet homme intérieur est notre esprit humain qui est mélangé avec l'esprit divin. Mais dans le chapitre 3, Paul, il n'a pas juste dit d'être fortifié dans notre esprit, il a prié d'être fortifié dans l'homme intérieur. Notre esprit est une personne pour voir l'Église, pour entrer dans l'Église. Notre esprit a besoin de la sagesse et de la révélation, n'est-ce pas? Notre esprit qui est mélangé au Seigneur doit être fortifié pour recevoir la sagesse et la révélation, pour voir l'Église et pour y entrer. Mais pour rester dans l'Église et vivre dans l'Église, notre esprit de sagesse et de révélation n'est pas suffisant. Notre esprit doit devenir notre homme intérieur. Notre esprit n'est plus un organe, mais c'est une personne, un homme, l'homme intérieur. Et maintenant, Christ veut faire sa demeure dans nos cœurs. Donc, ces deux prières dans Éphésiens, dans chapitres 1 et 3, cela nous ouvre une révélation merveilleuse qui nous montre qu'afin de voir l'Église, nous avons besoin que notre esprit soit illuminé, mais afin de rester dans l'Église, notre esprit doit être plus qu'un organe, mais doit être une personne. Maintenant, Christ, la personne, vit dans notre homme intérieur. Il désire se répandre de notre esprit jusqu'à toutes les parties de notre cœur. Il veut faire sa demeure. Il désire prendre possession de notre cœur. C'est la partie qui dirige tout notre être. Votre cœur, c'est là où vous placez votre intelligence, votre amour. C'est le centre de dirigeant. Christ veut faire sa demeure dans cet endroit de tout notre cœur. Christ est à la fois la vie du corps et la personne du nouvel homme. B. L'Église est le corps et ce corps a besoin que Christ soit sa vie. L'Église est aussi l'unique nouvel homme et cet unique nouvel homme a besoin de que Christ soit sa personne. Je vous ai déjà montré la différence entre prendre Christ comme la vie et prendre Christ comme notre personne. C'est vrai que nous pouvons jouir de Christ en tant que vie, mais nous pouvons rester toujours dans notre vieille personne. Vous pouvez toujours agir selon vous-même. Mais c'est certain que lorsque vous prenez Christ comme votre personne, vous allez le prendre comme votre vie aussi. Vous ne pouvez pas prendre Christ comme votre personne sans aussi le prendre comme votre vie. Mais de l'autre côté, vous pouvez prendre Christ comme votre vie, mais non pas comme votre personne. J'espère que cela est clair pour vous. Dans le recouvrement du Seigneur, nous jouissons de Christ comme notre vie. Ça fait des années que nous jouissons de Christ comme ça. Et nous recevons l'approvisionnement de cette vie divine. Mais combien est-ce que vous prenez Christ comme votre personne? C'est qui répond, qui réagit en vous? Dans l'unique nouvel homme, l'homme naturel n'a pas de place, car ici Christ est tout et en tous. Christ est en nous tous, donc nous avons tous seulement une personne. Nous avons tous le même Christ. Nous avons tous le seul, l'unique Christ. Le Christ en moi est le Christ qui est en vous. Peut-être qu'il y a 250 personnes ici, mais il y a une seule personne en nous tous. Peu importe si vous êtes chinois, coréen, français, allemand, cela n'a pas de différence. On pourrait ressembler différent, mais au-dedans de chacun de nous, il y a la même personne. Christ est en lui, est en moi, est en nous tous. C'est le secret unique pour notre unité et pour l'unique nouvel homme. Pour que l'unique nouvel homme soit exprimé. Si vous dépendez de votre langue, votre culture naturelle, vous ne serez jamais un. Chaque culture exalte sa propre culture. Les Américains, les Canadiens, les Juifs, les Arabes. Pourvu que vous retenez votre propre culture, il n'y a pas de paix. Mais ce que Christ a fait à la croix, c'était merveilleux. Il a aboli les ordonnances. Il a détruit le mur mitoyen. Il a aboli les différences entre les races humaines. Donc maintenant, il est l'unique personne dans chacun de nous. Lorsque nous regardons au-delà des couleurs, des races et tout ça, nous voyons le Christ en nous tous. Nous le prenons comme notre personne. Tout de suite, il y a la paix et l'unité. C'est facile de dire cela. En même temps que nous voyons Christ en nous tous, nous devons renier ce qui est en nous et ne pas élever ou cultiver. Pendant toute notre vie, le monde essaie de nous encourager à être individualistes. à élever nous-mêmes. Mais le Seigneur a dit, quiconque veut me suivre, qu'il se renie. Si on ne se renie pas, on n'aurait pas de vraie paix, de vraie unité. Christ doit être l'unique personne en nous tous. Chiffre Romains 2, lisons ensemble. En vue de l'existence pratique de l'unique nouvel homme universel, nous devons rejeter notre vieille personne et vivre par notre nouvelle personne. Ah, la question cruciale dans notre vie chrétienne n'est pas ce que nous faisons, mais qui le fait. Une fois, le frère Lee a dit que nous étions nés dans notre vie naturelle et nous étions élevés dans notre culture et nous étions éduqués dans toutes les philosophies et nous étions sauvés dans la religion. Nous sommes nés dans notre vie naturelle, que ce soit canadien ou français, et nous étions élevés dans un milieu spécifique à Montréal ou à Toronto. Il y a un élément culturel dans ce milieu où vous avez grandi. Et puis vous étiez éduqués selon les philosophies. Et lorsque vous étiez sauvés, dans la religion avec les concepts religieux. Ces choses ne nous aident pas à vivre le nouvel homme. Plus nous avons de l'éducation, moi je suis chinois, j'ai 5000 ans de culture, mais vous les Canadiens, combien d'années de culture avez-vous? 400 années. Ça ne vaut même pas la peine. Donc les Chinois, ils se glorifient dans leur culture, de combien de personnes ils ont. Ils peuvent engloutir le monde entier. Chaque nationalité essaie de se glorifier, d'élever ses propres caractéristiques, de voir les différences, de surmonter les autres, de vaincre les autres. Il ne peut pas y avoir de l'unité. Ces choses ont accumulé, ont été édifiées en nous. Même notre salut a été dans cette sphère. Mais par la miséricorde du Seigneur, et nous sommes venus dans le recouvrement du Seigneur, le salut de Dieu n'est pas seulement de nous enseigner quoi que ce soit, mais c'est une question du Fils de Dieu qui entre en nous, qui se dispense dans notre être. Le Seigneur soit avec votre esprit. C'est une personne de notre esprit. Et maintenant, cette personne, il désire se répandre dans tout le reste de notre être, notre cœur, notre émotion, notre volonté, notre intelligence. C'est ce qui est en train de se produire en nous tous. Donc, nous avons souvent des conflits. Peut-être que vous désirez retourner à votre ancienne manière de vivre. Et vous pensez que ce n'est pas un problème, votre vie ancienne, mais vous luttez avec le Seigneur. Vous essayez de donner des raisons, des excuses. Mais il y a quelque chose en vous. Le Seigneur vous demande, est-ce que cela est vous ou est-ce que c'est moi? Ce n'est pas juste une question d'être bon ou mauvais. Nous prenons souvent des décisions basées sur le fait que ce soit bon ou mauvais. Notre point de référence a toujours été les éthiques, ou même les Écritures, la Bible. Peut-être que vous êtes spirituel, mais même cela ne peut pas être le standard. Notre standard doit être si c'est le Seigneur ou non. Dans le nouvel homme, Christ est tout. Il est tout, il doit être tout. C'est une forte déclaration que Paul a fait. Il a dit que c'était impossible que ces différences existent dans le nouvel homme. Ce n'est que Christ qui est tout et en tous. C'est pourquoi lorsque le frère Lee a partagé ses messages, par rapport à l'Église qui est le nouvel homme, rien ne peut être plus élevé, même plus difficile, mais il a dit aussi que rien ne peut être si intime, parce que nous parlons d'une personne. Maintenant, au-dedans de nous, il n'y a pas juste un ensemble d'enseignements, mais une personne vivante. Comme dans le Cantique des Cantiques, le chercheur, elle est tombée amoureuse de Salomon, même si sa personnalité était tellement différente. Il avait beaucoup de luttes, mais à cause de son amour, il persévérait, elle a été transformée. Finalement, elle est devenue un avec lui. Sa personnalité est devenue la même que la sienne. Aujourd'hui, la question n'est pas quoi, mais qui. Et dit dans notre existence, nous devrions nous soucier du changement intérieur de la vieille personne à la nouvelle personne. Si vous conduisez une voiture manuelle, il y a toujours cette question de changement. Parce que vous avez toujours le vieil homme, bien qu'il ait été crucifié de manière positionnelle, mais il est toujours avec nous, parce que notre chair est avec nous. Donc, vous avez toujours votre ancienne manière de penser. Mais en même temps, vous avez été régénéré, une nouvelle personne habite en nous. Donc, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, vous voulez manger de la crème glacée. Vous aimez bien la crème glacée à Baskin Robbins. Vous voyez tous les parfums. Il y a une personne à l'intérieur de vous qui dit « Non, vous n'avez pas besoin de cela. » Mais vous dites que « J'ai à peine mangé la crème glacée l'année passée. » Peut-être vous dites, je ne suis pas gros, je suis en bonne santé. Et vous voulez choisir votre parfum, mais intérieurement, il y a quelqu'un qui dit non. Donc, la personne qui travaille là et vous demande ce que vous voulez. D'un côté, vous adhérez un parfum en particulier, mais de l'autre côté, quelqu'un vous dit non. Nous nous soucions plutôt de l'amélioration extérieure de nous-mêmes que le changement intérieur. Mais on n'est pas si conscient du changement intérieur qui se passe entre ces deux personnes. Nous devons prêter attention au changement intérieur, aux deux personnalités qui sont en conflit en tout temps. Nous devons prier au Seigneur. Seigneur, que je sois vaincu, que tu me vainques. Ne me permettez pas de vaincre. Nous devons permettre au Seigneur de nous vaincre. 3. Lorsque nous vivons notre vie en prenant Christ en tant que notre personne, surtout au sujet de prendre des décisions, notre existence sera l'existence de l'unique nouvel homme universel. Vivre par cette personne est lié au fait de prendre les décisions. Le corps sert à se déplacer, mais le nouvel homme avec la personne sert à vivre. La vie est plutôt liée à prendre des décisions. Considérez ce que vous faites, même si vous ne faites pas grand-chose, vous n'êtes pas trop pressé, occupé. Mais le moment où vous vous levez le matin, vous commencez à prendre des décisions déjà. Vous pensez au petit déjeuner, qu'est-ce que vous allez manger? Vous devez prendre des décisions. Vous ne voulez pas répéter la même chose à chaque jour. Et peut-être pour les sœurs, vous vous posez la question de ce que vous devez mettre. Quoi porter? Les pantalons, une robe? Parfois, ma femme me demande, si on voit les stagiaires aujourd'hui, est-ce que je devrais porter une robe ou est-ce que c'est correct si je porte des pantalons? Mais elle doit suivre son esprit. Nous sommes toujours impliqués avec des décisions. Cela est lié à notre personne. Quelle décision devrais-je prendre? Si vous lisez ces versets, en Jean chapitre 4, le Seigneur a dit, après avoir parlé à la femme samaritaine, ses disciples sont venus et ont vu qu'il lui parlait. Il a dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, ce n'est pas de faire ma propre volonté, mais de faire la volonté du Père. » Il a pris un détour pour parler à cette femme pécheresse. Cela n'a pas de sens pour nous. Elle était une femme pécheresse. Le Seigneur a fait un détour et il a dit que ma nourriture, ma satisfaction, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans le chapitre 5, verset 30, il a dit, « Je suis venu non pas pour chercher ma propre volonté, mais la volonté de mon Père. La volonté fait référence au désir du Père, au dessein du Père. Le Seigneur ne se soucie pas de notre propre volonté, mais de la volonté du Père. Dans le jardin, le Seigneur a prié, « Père, si cela soit possible, enlève cette coupe de moi, mais non pas ma propre volonté, mais ta volonté. » Le Seigneur Jésus, en tant qu'homme Dieu, lorsqu'il vivait sur la terre, il devait prendre des choix. Il a pris la décision de choisir de chercher la volonté du Père et de faire la volonté du Père. C'est sûr que le Seigneur Jésus n'allait jamais pécher ou faire quelque chose d'inique. Mais même avec un tel homme Dieu, il a fait un choix précis de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Tous ces versets nous montrent la manière que Jésus a vécu comme un homme. Si Christ allait seulement venir pour nous racheter, pourquoi avait-il besoin de vivre une telle vie? Pourquoi ne pouvait-il pas seulement venir pour accomplir la rédemption? Il a vécu une telle vie pour nous montrer comment un homme devrait vivre. Il est l'accomplissement de l'homme que Dieu a créé en Genèse. Mais le premier homme a chuté. Mais le deuxième homme a complètement accompli la volonté du Père. Il était vraiment l'homme qui exprimait et représentait Dieu. Et à la croix, bien que sa vie se termine, il a créé l'unique nouvel homme pour être sa continuation. La question de prendre des décisions doit être mise en pratique. Ce n'est pas une affaire de prendre une bonne décision ou d'une mauvaise décision, mais c'est qui fait la décision. Est-ce que c'est le Père ou le Fils? Ou est-ce que c'est vous? Vous ou Christ? Le corsaire a se déplacé, le nouvel homme sert à vivre, et dans 80 à 90% de notre vie, nous prenons des décisions. Nous avons mis Philippiens 1 comme référence. Le récit dit que Paul, il était sur le point de partir, de mourir. Dans le verset 21, il a dit « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, m'est un gain. » Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir, m'est un gain aussi. Parce que si je meurs, je peux être avec le Seigneur pour l'éternité. Rien ne pourrait être mieux que cela. Donc, il voulait lui-même mourir pour être avec le Seigneur, être libéré de toutes ses souffrances. S'il continue de vivre, il continuera de vivre Christ. Je vais le lire. Dans le verset 22, Philippiens 1, 22, « Mais si je dois vivre dans la chair, si cela résulte pour moi en travail fructueux, je ne sais pas ce que je choisirai. » Si je continue à vivre et je peux porter du fruit, Oh, il ne voulait pas juste vivre pour gagner plus de fruits pour lui-même, mais il a dit au verset 23, « Je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de partir et d'être avec Christ, car cela est de beaucoup le meilleur. » 24, « Mais demeurer dans la chair est plus nécessaire à cause de vous. » 25, « Et ayant cette confiance, je sais que je resterai et que je demeurerai auprès de vous tous pour votre avancement et votre joie de la foi. » Paul, il a vu que si c'était juste pour le fruit de son travail, il n'était pas sûr de quelle décision il allait prendre. Mais si c'était pour la joie des saints, pour l'avancement des saints, il a choisi de rester. Pas simplement pour sa propre joie d'être avec Christ, qui est beaucoup mieux, ni pour porter du fruit pour sa propre œuvre, mais il a vu que s'il demeurait, cela aidera les saints à avancer. Il était clair. Il a pris la décision, non pas selon sa préférence, non pas selon sa propre choix, mais selon Christ et aussi son corps, l'Église. Vous dites peut-être, je peux accepter ce qui est selon Christ, mais ce qui est pour l'Église, je ne suis pas si sûre. N'oubliez pas que l'Église est le corps de Christ et l'élargissement de Christ. Les versets dans 2 Corinthiens 1, 17 à 20 sont très bons aussi. Sa part de prendre des décisions. Christ est le oui. Avec lui, c'est oui. Avec Christ, il est la décision. Avec nous, on pourrait changer d'avis souvent, mais Christ est le oui divin. Dans le Nouveau Testament, nous prenons Christ en tant que notre personne afin de planifier, de décider comment nous devrions vivre. Si nous prenons Christ en tant que notre personne, nous ne déciderons rien par nous-mêmes dans notre vie. Si nous prenons Christ comme notre personne, nous ne devrions pas suivre ce qui est bon ou mauvais, prendre des décisions par rapport à cela, mais nous poser la question, c'est qui prend la décision? Est-ce que c'est Christ ou est-ce que c'est moi? Mais pas juste Christ, mais aussi le corps de Christ dont je fais partie. Philémon, verset 14, Philémon 14, il y avait Onésime qui était un esclave. Il était emprisonné et Paul l'a amené au Seigneur alors qu'il était en prison. Donc Onésime, il était comme son fils spirituel et Paul, il voulait le garder. Donc Onésime, il était sur le point de quitter les prisons. Et Paul a écrit l'épître à Philémon pour dire qu'il voudrait garder Onésime. Mais sans votre accord, je ne veux pas faire cela. C'est un apôtre qui a sûrement aidé Philémon, mais maintenant cette esclave, elle est retournée à Philémon. Mais Paul voulait qu'il reste avec lui pour l'aider. Il a aidé à sauver. Donc, il avait même le droit de demander pour lui, mais d'une manière intime. Il a demandé à Philémon, « Sans votre accord, sans votre pensée, je ne veux pas faire cela. Comment est-ce que vous vous sentez ?» Autrement dit, je ne veux pas faire quelque chose sans que vous soyez d'accord. Est-ce que c'est la manière que nous faisons les choses dans notre vie d'église? Ou lorsque nous voyons quelque chose qui est bon, et nous sommes zélés, on pense, peu importe ce qu'ils pensent, je vais avancer moi-même. C'est la raison pour laquelle tant d'offenses se produisent dans la vie d'Église. Les saints, même ceux qui dirigent, ils font des choses sans la communion, sans chercher la pensée des autres, le sentiment des autres. Nous choisissons selon ce qui est bon, ce qui est profitable, et ensuite nous prenons nos décisions. Nous devons d'abord voir la vision. On n'est pas juste un groupe de croyants rachetés qui assistent à des réunions de l'Église. Non, nous sommes des membres de l'unique nouvel homme. Nous sommes des partis. Nous sommes liés de manière organique et intrinsèque. Comment est-ce qu'un membre pourrait dire « Je vais m'en aller à cette direction sans vérifier avec un autre membre. Vous choisissez d'aller à Timbuktu, mais il n'y a pas d'église là-bas, il n'y a pas de saint là-bas, mais vous voulez juste aller là-bas. Vous dites que je veux élever une église. J'ai un fardeau. » Et puis, pendant une fin de semaine, vous êtes disparu avec votre fardeau pour l'Évangile. Aujourd'hui, nous vivons d'une manière collective. Nous sommes des parties de l'unique nouvel homme. Et dans la vie du nouvel homme, nous devons avoir le sentiment que nous n'allons pas décider selon nous-mêmes. Nous devons vérifier avec Christ et le corps de Christ. Puisque nous faisons partie du nouvel homme, nos décisions et notre existence ne devraient pas être à nous, elles devraient être les décisions et l'existence du nouvel homme collectif. Selon notre vie naturelle, nous vivons tous de manière individualiste, indépendante, pour des bonnes raisons même. Pour des raisons positives, mais nous ne vivons pas le nouvel homme. Nous vivons comme un chrétien indépendant dans tout ce que nous faisons. Cela ne veut pas dire que on doit demander aux frères pour toutes les décisions, quel manteau il faut acheter. Je ne veux pas dire cela. Mais certainement, vous devez vérifier, voir avec Christ. Est-ce que je devrais prendre ce café, cette crème glacée, cette affaire-là? Vous devez demander à Christ et aussi, alors que le Seigneur grandit en vous, vous allez voir que vous avez besoin du corps. Si vous désirez aller quelque part, vous voulez vous marier, peut-être que c'est lié à connaître un frère ou une sœur pour le but de se marier. Ne le faites pas sans avoir de la communion avec le corps. Le corps ne vous dira pas de vous marier à quelqu'un à qui vous n'aimez pas du tout. C'est pas, vous ne devez pas penser que le corps vous forcera à vous marier à quelqu'un que vous n'aimez pas du tout. Le Seigneur ne fera pas cela. Il est très humain. Il connaît nos sentiments humains. Souvent, nous voulons prendre notre propre choix et préférence. Nous devons être ouverts aux autres membres. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, j'étais à l'Est, ma famille a reçu la permission d'immigrer en Amérique. J'étais toujours au lycée, mais à ce temps-là, par la miséricorde du Seigneur, j'ai déjà vu la vision de Christ et de l'Église. J'ai prié pour cela. J'étais vraiment dans la vie de l'Église. Mais un jour, alors que je priais, selon l'Amérique et aller en Amérique, parce que mes parents déménageaient, je pensais que je devrais aller aussi avec mes parents, mais un jour, le Seigneur m'a touchée. Et l'Église j'ai constaté qu'il fallait consacrer cette question à l'Église, non pas juste à Christ. Un jour, avec les frères, j'ai servi avec les frères, j'ai ouvert cette question. J'ai dit, comment est-ce que vous vous sentez? Ce n'est pas ma décision personnelle. C'est une décision collective. Je veux ouvrir ce sujet au corps. Je suis consacrée à Christ, mais aussi à l'Église. Si le corps ne se sent pas bien, je n'irai pas. Tous les frères ont prié pour moi et avec moi. Ils avaient tous la confirmation. Oui, frère. Cela, c'est le Seigneur qui vous envoie. J'avais la paix. J'avais la paix intérieure. Que le fait que je venais à l'Amérique, c'était pas juste que ma famille voulait déménager. Mais j'ai ouvert ce sujet au corps. Et il y avait la paix, l'unité. C'est le Seigneur qui nous a envoyés. C'était une décision du corps. Vivre la vie du nouvel homme exige que nous vivions la vie de Christ et de l'Église. De l'existence du nouvel homme est une existence collective. Le frère Lee, il a partagé souvent, pendant les dernières années de sa vie, de la vie collective. Même une strophe dans un cantique, ce n'est plus moi qui vis, mais nous ensemble de manière collective. La vie de cet homme-Dieu est une vie collective. Quand j'ai entendu cela, au début, je ne pouvais pas le comprendre. Cela ne part pas de la maison des frères, de la maison des sœurs, mais c'est une vie, une existence collective avec Dieu et son peuple, ensemble. Nous sommes tous dans cette vie collective. Nous ne sommes pas seulement des chrétiens éparpillés, mais nous sommes liés les uns aux autres. Nous avons une vie collective avec Dieu et aussi avec les autres. Nos décisions sont collectives. C'est comme Paul qui voulait garder Onésime. C'était une affaire collective, pas juste personnelle. Chiffre Romains 4, Paul est un modèle de prendre Christ en tant que notre personne pour l'unique nouvel homme. Bien qu'il était si spirituel, il était super apôtre, mais il a dit que Dieu l'a fait un modèle au saint. Donc, nous devons suivre ses pas. Nous avons 8 points liés à ce modèle pour voir comment il a pris Christ comme sa personne. Lisons A. Il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. Rien ne plaît à Dieu plus que la révélation de la personne vivante du Fils de Dieu. Nous devons être amenés à un état où nous sommes pleins de la révélation du Fils de Dieu et ainsi devenir une nouvelle création avec Christ qui vit en nous. En ce qui concerne notre salut, ce n'est pas simplement une affaire d'accepter une nouvelle idée, un nouveau enseignement, mais c'est une question de recevoir une personne qui est révélée en nous. Et celui a plu à Dieu de révéler son Fils en moi. Donc, notre expérience de salut n'est pas simplement une affaire d'être converti, d'être musulman, être un chrétien ou d'être bouddhiste et puis être chrétien. C'est pas une affaire de se convertir d'une religion à une autre. Mais pour Paul, au début, il a rencontré une personne merveilleuse en route à Damas. Christ est apparu. Et Paul a dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il ne posait pas la question de quelle sorte d'enseignement devrais-je suivre, quelle sorte de commandement devrais-je garder. Il a reconnu que c'était le plaisir de Dieu de révéler Christ en lui. Après ce moment, il a vu qu'il y avait une nouvelle personne en lui. Lisons B. Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La personne qui a été révélée en lui vit maintenant en lui. Et alors qu'il vit en lui, il exige que l'ancienne personne ne vive plus. L'ancienne personne est crucifiée. Je suis crucifié avec Christ. L'ancien Paul, Saul de Tarse, a été terminé et une autre personne vit en lui. Cette personne a été révélée en lui. Paul ne dit pas que la vie de Christ vivait en lui, mais que Christ, la personne, vivait en lui. L'économie de Dieu est que le je soit crucifié dans la mort de Christ et que Christ vive en nous dans sa résurrection. Lisons C. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul, il prenait soin des saints et des nouveaux. Il amenait beaucoup au Seigneur. Mais alors qu'il les amenait au Seigneur, il voulait que le Christ qui était révélé en eux soit grandi, soit formé en eux. Lorsque nous prenons soin des gens, est-ce que nous avons cette pensée? Peut-être qu'on est très content si deux ont été baptisés. Et le mois dernier, on avait 10 qui étaient baptisés. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal en disant combien de personnes ont été baptisées. Mais au lieu de nous soucier des nombres, on devrait se soucier de Christ. Est-ce que Christ est en train de croître dans cette personne? Est-ce qu'il est en train d'être formé? Il a éprouvé de nouveau les douleurs de l'enfantement. Il voulait que Christ soit formé dans cette personne, pas juste une autre nombre. Chers saints, j'espère que vous constatez que le besoin du recouvrement du Seigneur, ce n'est pas juste l'accroissement en nombre, mais l'accroissement de Christ. Christ doit croître, doit augmenter en tous les saints. Si vous prenez soin des autres, vous devez vous soucier du fait que vous demandez si Christ est en train d'être formé en eux, s'ils grandissent en Christ. Dans les écrits de Paul, il était tellement consumé par cette pensée. En Colossiens, ça dit qu'il luttait pour que chaque homme soit présenté pleinement mûri en Christ. Il était conscient de la maturité de Christ, la croissance de Christ dans les saints. Lorsque nous paissons les nouveaux, les jeunes, nous devons prendre Christ comme notre personne. Et même dans la prédication de l'Évangile, nous allons être conscients de Christ. Nous sommes ici pour dispenser Christ aux autres et pour qu'ils aient Christ formé en eux. Lisons des « Afin que Christ fasse sa demeure dans vos cœurs par la foi. » Pendant que ce Christ est formé en nous, il désire finalement prendre pleine possession de nos cœurs, qui est le centre de notre personne. Il veut faire sa demeure. Ou demeurer en nous. D'autres traductions disent « demeure en nous ». Je peux rester, je peux demeurer quelque part, mais ce n'est pas la même chose de faire ma demeure, ma maison. Faire sa maison en grec, c'est « kata okeo ». « Kata » veut dire « profond », « profondément », « dedans ». Dans votre cœur. Pas simplement comme un visiteur superficiel. Dieu le Père est en train d'exercer son autorité par Dieu l'Esprit pour nous fortifier dans l'homme intérieur, afin que Dieu le Fils fasse sa demeure au plus profond de nos cœurs. 2. Si nous laissons Christ avoir toute la place au-dedans de nous, et si nous lui donnons toute la liberté de faire tout ce qu'il veut faire en nous, nos cœurs deviendront sa demeure. Il désire faire tout ce qu'il veut en nous. C'est la même chose. Votre maison, vous pouvez changer les meubles, changer la peinture. Christ veut faire la même chose en nous. Dans le nouvel homme, il y a quelque chose qui s'appelle les entrailles, les parties intérieures. Paul désirait rendre visite aux saints. Il chérissait les saints. Il chérissait les saints dans les entrailles de Christ. Qu'est-ce que les entrailles de Christ? Les entrailles de Christ font référence à la tendresse, la compassion, l'affection intérieure. À moins que le corps soit vivant et fonctionne, on est content. Mais avec le nouvel homme, la nouvelle personne, c'est pas juste une question d'être active, de fonctionner. Mais est-ce que vous avez de la tendresse? Lorsque notre membre ne fonctionne pas et vous le critiquez, non. Si vous vivez la vie du nouvel homme, vous serez plein de tendresse et de compassion. Et de l'affection intérieure. Paul ne vivait pas dans son être intérieur naturel. Il vivait une vie dans les entrailles de Christ, faisant l'expérience de Christ dans ses entrailles. Et il était un avec Christ même jusque dans ses entrailles. Paul ne gardait pas ses propres parties intérieures, mais il prenait les parties intérieures de Christ comme les siennes. L'être intérieur de Paul était reconstitué avec les parties intérieures de Christ. Lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent. Lorsqu'un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent. Nous faisons tous partie de ce nouvel homme. Dans cette vie du nouvel homme, le Seigneur a besoin de reconstituer notre sentiment intérieur, notre compassion, notre tendresse de cœur. Paul, dans les autres parties du Nouveau Testament, il est venu au Saint avec la sincérité de Christ, la vérité, véracité de Christ. Il était plein de tendresse, non selon lui-même, mais selon cette autre personne, plein de sentiments, plein de tendresse. F, lisons F. Qu'il y ait en vous cette pensée qui était aussi en Christ Jésus. Il y a une partie en particulier dans notre pensée. Notre pensée prend des décisions, analyse. Mais Paul, il a dit qu'il y ait en vous cette pensée, la pensée de Christ. En voyageant à plusieurs endroits, je constate que les pensées des personnes est un peu intéressant, un peu bizarre. C'est intéressant de voir ce qu'ils pensent. Une personne pourrait penser que quelque chose est absolument bon, mais l'autre personne pourrait penser que ce soit absolument mauvais. Ça dépend de votre manière de penser. Ici, Paul parle de la reconstitution de notre pensée, de l'ajustement de notre pensée pour être la pensée de Christ. Si nous avons l'intention de prendre Christ en tant que notre personne, nous devons être disposés à renier notre pensée et à faire remplacer notre pensée par la pensée de Christ. D'abord, nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Notre logique doit être ajustée. Notre pensée est affectée selon la manière qu'on a grandi. Les Coréens ont une pensée, les Allemands ont une pensée différente. Les Allemands sont vraiment sévères. Une sœur, elle a migré en Allemagne. Elle était de l'Amérique pour servir. Elle voulait amener les nouveaux à la réunion de maison. Elle attendait à ce qu'il y ait 10 personnes. Puis, à la dernière minute, la sœur voulait inviter un autre étudiant. Elle a demandé au saint qui ouvrait sa maison, est-ce que je peux l'inviter? Elle a dit non, 10, c'est 10, pas plus. Mais pour les Chinois, on dit, oui, venez. Plus, le plus il y a, le mieux c'est. Mais le saint allemand a dit non, c'est justice. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est une manière de penser. Lisons J. Car aussi ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, dans la personne de Christ. Paul vivait Christ ayant un contact très proche et intime avec lui, agissant selon l'indicateur de ses yeux. Paul était une personne qui était un avec Christ, plein de Christ et saturé de lui. Un homme qui était brisé et dont la vie naturelle avait même pris fin. Un homme doux et souple dans sa volonté, affectueux mais avec une certaine retenue, à l'intelligence pleine d'égards et sobre, pur et sincère dans son esprit envers les croyants pour leur bien. À l'église à Corinthe, Paul a dit « Je pardonne pour vous dans la personne de Christ, selon l'indicateur des yeux même. Vos yeux sont une partie très intime du corps qui exprime le sentiment intérieur. Souvent, nous pouvons voir à travers les yeux si une personne vous aime ou non. Il ne doit pas dire un mot. Ses yeux montrent son sentiment. Paul a dit, je lui pardonne selon l'indicateur des yeux de Christ. Il connaissait le sentiment de Christ. il savait que si Christ avait pardonné cette personne, il devait lui pardonner aussi. Selon l'indicateur de ses yeux, Christ m'a montré son sentiment. Paul était tellement détaillé. Lisons H. Afin que la juste exigence de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. 1. En pratique, prendre Christ en tant que notre personne revient à avoir notre être totalement selon l'esprit mélangé. 2. Dans notre vie quotidienne, nous ne devrions pas avoir notre être selon un enseignement, un sentiment, des concepts ou des circonstances, mais selon l'esprit mélangé, en prenant Christ en tant que notre personne pour l'unique nouvel homme universel. Loué soit le Seigneur. Finalement, cette personne merveilleuse est l'esprit qui donne la vie. Donc, l'exigence ultime ou le commandement ultime, c'est de marcher selon l'esprit. L'esprit est la personne même de Christ qui vit avec nous pour être un seul esprit. Il faut que l'esprit soit notre point de référence, notre standard.